Bonjour, bonjour et bienvenue dans Histoire de Savoir sur Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. Bienvenue dans Europolis, Thomas Gesseling au micro. Aujourd'hui, nous allons parler de la fiction post-raciale belge. C'est le titre d'un ouvrage publié aux éditions de l'Université de Bruxelles. La fiction post-raciale belge, un ouvrage que l'on doit à la plume de Sarah Demar. Sarah Demar est sociologue, docteur même en sociologie, diplômée des universités de Toulouse-Le Mirail en France et de Louvain-la-Neuve en Belgique. Et aujourd'hui, elle est membre de STRIJ, acronyme de Structure de Recherche Interdisciplinaire sur le Genre, l'Égalité et la Sexualité de l'ULB. Au départ, ses recherches portent sur la diaspora congolaise et les mobilisations politico-religieuses. Par la suite, et au cours des 10 dernières années, elle s'est intéressée à l'émergence d'un antiracisme afro-descendant. Également, elle s'est intéressée à la construction des expertises militantes et au tournant féministe de ce militantisme noir africain. Elle publie aux éditions de l'Université de Bruxelles donc la fiction post-raciale belge sous titre « Antiracisme, afro-descendant, féminisme et aspiration décoloniale ». C'est publié dans la collection Sociologie, Anthropologie des éditions de l'Université de Bruxelles. On parle de cet ouvrage en compagnie de Sarah Demar dans un tout petit instant. Sarah Demar, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en sociologie, vous travaillez depuis pas mal d'années, depuis 2018, à l'Observatoire du Sida et des Sexualités. Vous avez un doctorat sur les migrations congolaises et la reconfiguration politico-religieuse en contexte post-colonial. Vous avez travaillé sur ces questions, grosso modo, entre 2004 et 2010. Et vous êtes concentré sur les mobilisations afro-descendantes, dont on va beaucoup parler aujourd'hui, et noires à partir d'une ethnographie de l'espace militant afro-belge, notamment bruxellois. Et sur la place des migrants dans la stratégie de lutte contre le VIH-SIDA depuis 2019. Vous appuyez sur des questions empiriques pour réfléchir à un ensemble de questions théoriques telles que la race globale, la méthodologie décoloniale, les politiques de l'ignorance, les résistances subalternes et l'extractivisme épistémique. Je viens de prouver que je n'avais pas très bien compris quel était ce concept, mais ça peut-être on en reparlera plus tard. Ce dont on va parler aujourd'hui, c'est la fiction post-raciale belge. Aussi à détailler, parce que ça ne se comprend pas d'emblée. C'est le titre d'un ouvrage que vous avez, qui est sorti de presse récemment aux éditions de l'Université de Bruxelles dans la collection Sociologie-Anthropologie, dirigé pour la petite histoire par André Aréa, qu'on va recevoir prochainement à ce micro pour un autre ouvrage publié dans la même collection. La fiction post-raciale belge, le sous-titre c'est Antiracisme afrodescendant, féminisme et aspiration décoloniale. Alors c'est quoi la fiction post-raciale? C'est ce qui permet de la continuation, selon vous, du racisme anti-noir, parce que c'est ça dont il est question, car la question de la reconnaissance institutionnelle n'a en fait jamais véritablement été réglée.
Oui, c'est ça. En fait, la fiction post-raciale, c'est un concept qui vient de, que j'ai forgé à partir de plusieurs apports de la littérature, qui montre que, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe est rentrée dans une ère un peu post-raciale, avec cette idée, cette condamnation morale, idéologique, juridique de la race. Et cette idée que la race, c'était quelque chose de passé, c'est quelque chose d'exceptionnel dans l'histoire de l'Europe, une aberration, un accident de l'histoire, mais certainement pas quelque chose de structurel qui était au fondement de notre société. Donc ce refus de penser la race comme une force sociale et historique et qui continue d'animer aussi bien les institutions que nos représentations et plus généralement la société. C'est cette idée, en fait, par fiction post-raciale, c'est l'idée que donc, cette représentation-là permet de concevoir le racisme comme quelque chose d'exceptionnel. On est dans le régime de quelque chose d'exceptionnel, d'accidentel.
Un accident d'histoire.
Voilà, et aussi quelque chose au niveau du quotidien, du temps présent, comme quelque chose de très individuel. C'est-à-dire que le racisme, c'est une question beaucoup d'intentionnalité, d'idéologie, d'individualité. Et on a beaucoup de mal à penser le racisme comme quelque chose d'autre, en fait. Par exemple, comme une manière de voir le monde ou comme une force sociale qui agit la société.
En deux mots, c'est quoi la race pour vous, Sarah Demar?
Alors, la race, c'est une construction sociale et historique qu'on peut faire remonter à différentes étapes de l'histoire de l'Europe, selon qu'on se base sur le moment des conquêtes européennes en Amérique latine ou en Afrique ou en Asie, ou qu'on se base sur l'histoire plus religieuse de l'Europe. Mais c'est une manière de catégoriser, classifier et hiérarchiser les êtres humains et d'aboutir, selon différents critères, à l'idée que certains individus et certains peuples sont moins humains, voire ne sont pas humains, par rapport à d'autres. Et la centralité, en fait, de ce qui permet de mesurer qu'est-ce que l'humain, qu'est-ce que la vie qui a de la valeur, quels sont les individus qui ont des âmes, quels sont les individus qui ont une culture supérieure, qui ont le droit, en fait, d'imposer leur manière de voir le monde, y compris par le sang. La mesure, en fait, la centralité, c'est la blanchité.
Toutes ces questions ne datent pas d'hier, ceci dit, même si la question du racisme anti-noir, on va y revenir avec vous, Sarah Demar, dans un instant, est relativement récente dans l'histoire des temps. Vous disiez savoir si certains individus racisés ont une âme ou pas. La controverse de Valladolid, déjà, on a fait son centre de questionnement. On a l'impression que ça n'avance pas.
Eh bien, disons, ça avance parce que l'histoire, elle est faite de mouvements, de tensions, mais ça n'avance pas forcément de manière linéaire. Mmh. C'est-à-dire l'idée selon laquelle il y aurait un progrès linéaire, que ce soit dans l'émancipation ou dans la raison, dans la conscientisation. Ça, effectivement, on ne peut pas défendre ça au regard de l'histoire de la race en Europe et dans le monde, plus généralement. Mais ce qu'on peut dire, c'est que la race n'est pas quelque chose qui se transmet à l'identique. C'est-à-dire cette manière de concevoir le monde, de construire par exemple la représentation des personnes noires en Belgique, si on peut la situer dans le temps, donc la colonisation, mais avant ça, la conquête du Royaume Congo par les Portugais, les différentes missions religieuses qui s'en sont suivies, ça se transforme. Donc on est plutôt dans des reconfigurations et aujourd'hui on hérite de formes de représentation vis-à-vis de qu'est-ce que c'est être une personne noire, qu'est-ce que c'est être une personne blanche, mais qui sont en permanence actualisées, reconfigurées dans l'espace des représentations, mais aussi des fonctionnements institutionnels et même des lois. Puisque, on y viendra probablement, mais la manière dont on représente le racisme n'est pas neutre, elle n'est pas objective. Et dans la manière dont on pénalise ou pas le racisme, elle n'est pas non plus, n'a pas une valeur de vérité universelle. C'est à un moment donné le résultat de décisions, de compromis et d'une manière de concevoir ce qui est ou pas problématique dans la manière de se représenter les autres. Et donc aussi de légitimer, de normaliser une certaine forme de racisme.
Alors il y a des mouvements quand même qui sont mis en œuvre pour essayer de comprendre, voire de transformer un peu la société dans une optique de justice sociale. Il y a un antiracisme d'État, un antiracisme que vous qualifiez de mainstream, que vous allez confronter à l'antiracisme et qui essaye de se développer par les afro-descendants. C'est quoi cet antiracisme d'État? C'est ce que vous disiez tout à l'heure, Sarah Demar, quand vous disiez que finalement ça renvoyait à quelque chose qui procédait de l'individualisme, de quelque chose de personnel et à placer dans un moment de l'histoire.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire ce que je regarde dans le livre, je regarde comment est-ce que une pensée, un mouvement antiraciste s'est constitué, donc qui se constitue extrêmement tardivement par rapport à l'histoire de la politique raciale belge, qu'on peut à minima en fait dater à la fin du 19e, alors que l'antiracisme se constitue seulement après la Seconde Guerre mondiale. Et là, on a un antiracisme d'État et un antiracisme mainstream. Par mainstream, ce que j'entends, je réfère plutôt au mouvement issu de la société civile. Dans l'antiracisme d'État, c'est plutôt l'antiracisme tel qu'il est pensé à travers les différentes politiques publiques. Donc ce qu'on peut grosso modo appréhender à travers la politique d'égalité des chances. Mmh. Et puis un antiracisme mainstream qui lui vient plutôt des mouvements sociaux, la société civile, donc qui va être dans l'espace francophone assez lié à l'éducation permanente, mais qui a aussi des liens avec l'université, avec les syndicats, enfin avec différents lieux. et donc qui ne sont pas forcément tout à fait... c'est-à-dire que la société civile en Belgique a ceci de particulier, qu'elle bénéficie d'importants soutiens institutionnels de financement de la part de l'État, mais elle n'est pas le résultat d'une politique publique qu'elle devrait complètement implémenter. Donc il y a des tensions entre la manière dont l'État pense l'éducation, l'égalité des chances ou l'antiracisme, et la manière dont la société civile, issue de différents milieux, puisqu'en Belgique, c'est quand même, on est vraiment dans la pluralité, va mettre à l'agenda une politique antiraciste.
Oui, vous dites, la question du financement est d'ailleurs un des vecteurs forts du développement ou non d'un antiracisme racisé, qui soit plus afrodescendant, mais on y reviendra dans un instant, peut-être Sarah Demare. Quoi qu'il en soit, il y a donc cet antiracisme mainstream ou d'État, mais vous plaidez pour un examen approfondi, une reconnaissance d'un antiracisme afrodescendant. Qu'est-ce que ça veut dire ?
C'est ça, c'est-à-dire que ce que je regarde dans le livre, c'est à partir donc d'une enquête de terrain, c'est la structuration d'un espace antiraciste porté par des personnes d'ascendance africaine, par rapport à leurs propres priorités, leurs propres organisations. Donc il y a les mouvements associatifs, politiques antiracistes, afrodescendants, liés aux migrations, on peut les dater dans les années 90 en Belgique, même s'ils se réfèrent à des mouvements de revendications qui ont eu lieu bien antérieurement, au début du XXe siècle, autour notamment de Paul Panda Farnana, et donc qui sont liés à des reconnaissances de l'implication des Congolais, des sujets coloniaux, pour la libération en fait de l'Europe, pour par rapport à la Seconde Guerre mondiale. Mais donc ce que moi je vais regarder, c'est ce qui se joue vraiment durant la décennie 2010. Donc il y a l'avènement de nouvelles organisations qui reprennent certains combats de l'antiracisme des années 90-2000, qui reprennent certains mouvements, certains objectifs, et qui en développent d'autres. Et donc, ce n'est pas forcément des plus jeunes, même si parfois, souvent, on a des personnes qui sont nées ici et donc qui ont une autre manière de revendiquer et de penser la question de la reconnaissance. Mais c'est surtout une seconde vague. En fait, on peut parler de seconde vague ou d'une autre vague d'antiracisme, dans le sens où la manière de revendiquer est différente. Et les mouvements aussi sont différents. Dans les années 90-2000, ce qui a beaucoup... caractériser l'antiracisme, c'était déjà le fait de pouvoir être reconnu comme vivant en Belgique en tant qu'afrodescendant, et pas simplement on est des Congolais qui venons dans le cadre de politique, de coopération ou pour faire des études et on va rentrer chez nous. Non, en fait, les afrodescendants, les personnes noires sont là, elles sont là durablement, il y a des problèmes d'intégration qui se posent. Et nous aussi, on est des immigrés, ce qui peut paraître étonnant comme revendication aujourd'hui, parce que c'est un thème qui apparaît un peu stigmatisant. Mais ça a été une revendication liée à la reconnaissance d'une présence et donc du coup à une inclusion dans les politiques publiques d'intégration, etc. Dans les années 2010, donc vraiment au lendemain de la commémoration du cinquantenaire de l'indépendance du Congo, qui a été un peu un énième rendez-vous manqué parce qu'on a très peu entendu l'expérience des vies congolaises et des vies noires en Belgique, on voit vraiment une autre manière de s'organiser et de revendiquer. Et c'est ça que moi j'ai regardé en fait, c'est-à-dire comment à partir de ce moment-là, les organisations afrodescendantes, donc portées par des personnes d'ascendance africaine, dont certaines sont nées ici, dont les acteurs sont parfois nés ici, parfois nés en Afrique et arrivés plutôt jeunes en Belgique, comment est-ce qu'ils vont revendiquer leur place dans l'antiracisme ? Donc, comment est-ce qu'ils vont, à la fois en tant que personne, en tant qu'organisation, mais aussi dans la manière de penser l'antiracisme, avec autour de, notamment, l'enjeu majeur, c'est faire reconnaître l'existence du racisme anti-noir qui a été historiquement négligé par l'antiracisme mainstream et d'État.
Oui, c'est assez étonnant, ça redémarre évidemment à la lecture de votre ouvrage, dont je rappelle le titre, La fiction post-raciale belge, publié aux éditions de l'Université de Bruxelles. C'est de comprendre qu'effectivement, cette question de l'antiracisme, elle existe depuis, vous venez de le détailler, depuis pas mal de décennies, mais la question de l'antiracisme anti-noir en Belgique, c'est plus compliqué. Hein. Les personnes issues de l'immigration des mouvements précédemment liés au travail, par exemple, l'immigration italienne, turque et marocaine sont apparues plus vite et l'héritage colonial est comme beaucoup plus lourd aujourd'hui à porter. Alors, dans cet ouvrage, vous parliez cette volonté en mettant en exergue le terme décolonial, d'essayer de régler cette question, mais c'était pas facile jusqu'il y a peu de temps, hier quasi, hein, que vous parliez de début de la décennie 2010, où encore ces notions-là n'étaient pas entendables.
Absolument. Et c'est intéressant de voir, et c'est aussi ce qui caractérise cette fiction post-raciale en Belgique, puisque les différents pays euro-occidentaux en Europe ou aux États-Unis ont des fictions post-raciales, mais qui s'articulent différemment en fonction de l'histoire nationale, de l'idéal démocratique, etc. Mais une des spécificités qu'on peut acter en Belgique, c'est qu'on est passé en une décennie, en quelques années, à un moment où on n'osait pas prononcer certains mots, véritablement, les mots racisme, postcolonial, les mots décolonial, race, afroféminisme, intersectionnalité n'existaient pas, à une superproduction de ces termes, y compris par des institutions, et à tel point que des militants ou des chercheurs qui travaillent sur ces questions-là de manière critique ou qui mobilisent ces questions-là dans leur lutte quotidienne en viennent à ne plus vouloir utiliser notamment les termes de décolonial ou même d'intersectionnalité. Tellement ils ont été repris, capitalisés, vidés de leur substance par les institutions. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé durant toute cette décennie ?
Une instrumentalisation, d'une certaine manière ?
On peut parler d'instrumentalisation, qui est une notion que moi j'utilise peut-être pas énormément parce qu'elle suggère qu'il y a une intentionnalité. Et ça, c'est pas vraiment quelque chose que je regarde. Parce que on n'a pas forcément les outils, en fait, pour dire est-ce que la personne raciste le fait intentionnellement, est-ce que la personne ou l'institution qui reprend les savoirs militants à son compte les fait intentionnellement. Mais par contre, ce qu'on regarde, c'est les processus sociaux et leurs effets. Et là, effectivement, ce qu'on peut voir, c'est que tous ces mouvements associatifs sont passés d'un moment où il s'agissait de se battre pour avoir la parole, de se battre pour se faire entendre, pour accéder aux médias, pour accéder à des prises de décision dans des institutions comme les musées ou les centres culturels qui produisent un discours sur l'Afrique ou sur les Africains, voire maintenant sur les Afro-descendants. Ils sont passés de ce moment à se battre pour avoir la parole à un épuisement tellement leur parole est sollicitée sans observer de transformation effective au niveau collectif, au niveau de la société, mais parfois même dans leur vie, puisque à la fin de la décennie 2010, donc qui est le moment où moi j'arrête cette recherche, le constat est celui d'un épuisement militant, voire même d'un retrait militant, avec l'idée en fait de s'engager de manière différente au profit plutôt des organisations et des vies noires que de se retrouver dans des discussions avec les institutions qui finalement n'aboutissent à pas grand-chose.
Il y a une forme d'échec.
Alors, bon, ça, c'est aussi un peu un concept compliqué de parler d'échec, parce que ça, il faut pouvoir se dire comment est-ce que, entre guillemets, on évaluerait l'échec. Mais si on se met dans une perspective un peu longue, de se dire, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire on a l'impression que ça ne change pas. Si les choses, elles évoluent, on est passé de la colonisation aux indépendances, même si on peut mettre des guillemets, on est passé de l'invisibilité à la visibilité, de la silenciation à une véritable vocalité des personnes afrodescendantes, dans le sens, non pas que les gens prennent la parole, ils la prenaient déjà, mais on les entend, et leur narration nous amène à nous poser des questions, à transformer les récits nationaux. Mais on sent que ces émancipations sont dans la longue durée. Donc en fait, la question de l'échec, ça dépend comment on définit l'objet de la lutte. Et ce qui permet de dire qu'il y a victoire ou pas victoire, ça fait partie aussi des choses qui sont discutées en fait dans l'espace militant au regard de ce qu'on pourrait appeler le pluralisme stratégique. Quelles sont les stratégies qui fonctionnent en fait? Mais ce que défendent certaines auteurs, je pense notamment à une géographe qui s'appelle Ruth Gilmore, et qui parle en fait, qui avance cette notion de répétition, elle dit finalement de répétition d'entraînement, cette idée que génération après génération, il y a une reprise des luttes et qui approfondit, qui reprend, qui mène plus loin les combats portés par les générations précédentes. Et donc, c'est aussi de ça, en fait, que parle et l'antiracisme afrodescendant et ce qui se passe à la fin des années, la décennie 2010. Et là, je pense qu'on est vraiment rentré dans autre chose avec Black Lives Matter, avec la reprise de tous les combats portés par les afrodescendants au cours de la décennie 2010, par le politique, qui a très souvent conduit à enfouir et enterrer quelque part les revendications. Donc ça, c'est quelque chose aussi que, voilà, qu'on est plusieurs à acter, en fait. Comment la reprise politique aboutit à entériner des questions qui avaient été mises à l'agenda du débat public et politique par les militants, et souvent en discussion avec les chercheurs. Et puis, bon, depuis 2023, il y a aussi une intensification, enfin, et une reprise de la question de la colonisation palestinienne avec le génocide israélien, qui fait que sur les questions d'antiracisme, la décennie 2020 nous situe vraiment dans un autre contexte. Mais donc moi, cette recherche-là, je l'arrête en 2019. Et à ce moment-là, le constat, c'est celui vraiment d'un épuisement militant et aussi... Et aussi d'une question qui a beaucoup été discutée tout au long des décennies 2010, qui est celle des alliés. Des alliés blancs, pas que blancs, aussi des alliés racisés, en lien avec les institutions, en lien, que ce soit les centres culturels, je l'ai dit, le milieu socioculturel, l'éducation permanente, les universités. Donc, au-delà de la posture qui consiste à inviter les militants à prendre la parole ou de tentatives de collaboration plus ou moins heureuses. Qu'est-ce que ça voudrait dire, en fait, réellement, d'être dans une politique de l'Alliance qui engage les institutions et qui ne soit pas, finalement, dans une situation de faire travailler? C'est un peu ça, la question de l'extractivisme épistémique, de demander aux militants de finalement venir nous expliquer c'est quoi la race, c'est quoi le racisme, c'est quoi l'intersectionnalité, etc. Donc, cette phase-là, elle s'est épuisée. Voilà.
Elle s'est épuisée, elle reviendra peut-être, un élan reviendra peut-être. Ceci dit, toutes ces prises de parole, toute cette militance, vous dites à un moment qu'il y a la question de l'argent ici, de la financiabilité de ces prises de parole, de ces implications, de ce temps consacré à cette militance est évoquée et ça pose parfois problème.
Absolument, ça fait partie des choses qui m'ont beaucoup questionnée, mobilisée sur le terrain. Par rapport au collectif auprès duquel j'ai mené cette recherche, qui est le collectif BAMCO, donc qui a joué un rôle très important tout au long de la décennie 2010, en politisant toute une série de questions autour du musée de Tervueren, mais aussi autour de la question de la rémunération des expertises militantes, donc de savoir quels sont les savoirs qui comptent. À nouveau, on est dans des politiques raciales, puisque ça touche à la question de comment est-ce que on catégorise les savoirs, comment est-ce qu'on les hiérarchise, quels sont ceux qui comptent, quels sont ceux qui peuvent avoir le statut d'expert, et surtout...
Mais ça veut dire que comme si on était militant, eh bien on devait faire ça par bonté de cœur, par élan altruiste et gratuitement, finalement.
C'est ça, il y a cette question-là. Il y a à la fois, donc il y a eu toute une lutte militante pour faire reconnaître la parole militante, non pas comme un témoignage, mais comme un savoir construit, et donc comme une expertise. Et à partir du moment où il y a des demandes, et des demandes qui sont vraiment nombreuses, qui ont participé de cet épuisement militant, se pose la question de la rémunération. Qui bénéficie de ces expertises? Qui en bénéficie? Dans quelle économie institutionnelle ces savants militants se trouvent pris, souvent malgré eux, et au bénéfice de quelles institutions? Donc, notamment toutes ces institutions qui veulent se décoloniser, qui veulent avoir une image plus progressiste, etc., mais qui ne procèdent quasiment pas à des transformations structurelles.
Et pourtant, tout le monde est gagnant à ce qu'il y ait une évolution de la situation. Vous dites dans votre ouvrage, l'adhésion au projet de déshumanisation qui est celui de la race se traduit par une perte d'humanité pour la personne blanche, pour les personnes blanches. L'analogie est indispensable pour faire comprendre ce qu'est le racisme ou ce qu'a été le colonialisme.
Absolument, et ça c'est certainement C'est une phrase tirée de la conclusion et qui est pour moi un point de, effectivement de basculement théorique, je dirais. C'est-à-dire que les personnes se battent pour faire reconnaître leur existence, pour revendiquer plus de droits, plus de justice sociale, mais aussi historique, parce que la question de la colonisation, elle pose vraiment la question de la réparation. Mais finalement, tout ça, c'est pour arriver à défaire la race. Et défaire la race, ça voudrait dire arriver à ne plus être dans un fonctionnement qui conduit à considérer que, bah, finalement, si ce sont des vies noires ou des vies arabes qui meurent, que ce soit dans la Méditerranée, que ce soit sous les bombes, que ce soit dans différents contextes, par la pauvreté ou autre, bah, finalement, ça ne nous affecte pas tellement. Ça peut nous émouvoir un peu, et puis on zappe, et puis on passe à autre chose. Alors que, voilà, si ça peut être d'autres vies, il y aurait des réactions plus immédiates. Et donc cette question de comment la race a aussi profondément formaté, oui, notre empathie, nos subjectivités et y compris notre manière de comprendre le monde. Et ça, les chercheurs, je pense, enfin en tout cas un certain nombre de chercheurs qui sont amenés à travailler ces questions-là le savent, les militants le savent très bien. Le fait qu'il faille en permanence dire, mais regardez, si on parle de combat des personnes noires, on va comparer au combat des femmes blanches, où on va tout en procéder par analogie pour faire comprendre. Mmh. Et ce procédé-là, il veut dire qu'il y a quelque chose dans notre... dans notre propre humanité, en fait, qui est je sais pas si on peut dire qui est mort, qui est sans vie ou qui a été complètement qui adhère en fait au projet racial. Et donc c'est pas
une forme de banalisation.
Oui, et c'est pour ça que c'est pas juste une question d'idéologie. La race, c'est pas simplement les gens qui sont à l'extrême droite. C'est-à-dire on est depuis des siècles dans des sociétés qui se sont construites sur des projets raciaux qui se transforment et qui nous amènent à ne pas voir, ne pas comprendre, ne pas sentir.
Et vous dites, la race n'est pas juste un héritage colonial fixe, c'est une approche circulaire du temps qui est nécessaire pour comprendre le passé depuis le présent.
Oui, absolument. Et c'est pour ça que le militantisme afrodescendant a fait un travail mais colossal, extraordinaire tout au long de ces dernières années et qui va bien au-delà en fait de l'espace de l'antiracisme mainstream et d'État. Donc c'est ça aussi qui est intéressant. C'est pas juste que l'antiracisme mainstream et d'État, donc que ce soit l'État belge ou les mouvements sociaux belges, francophones, mais aussi néerlandophones, c'est pas juste qu'ils n'ont pas pensé le racisme anti-noir, parce qu'ils n'ont pas pensé la situation coloniale.
Peut-être certaines personnes disent c'est une autre époque, on ne peut pas comprendre avec le regard d'aujourd'hui. Ça, vous dénoncez tout ça.
Oui, c'est ça. Donc c'est pas juste en fait que l'État belge ou les mouvements sociaux belges, francophones ou néerlandophones n'ont pas pensé le racisme anti-noir parce que ils n'avaient pas, s'étaient pas engagés en fait dans des mouvements anticoloniaux où c'est arrivé très 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 tardivement et de manière très 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 minoritaire. Donc il y a vraiment toute cette histoire qui est nécessaire pour comprendre comment on en arrive à ne pas penser le racisme anti-noir, mais que en ne pensant pas le racisme anti-noir, en fait, on ne comprend pas la manière dont cette histoire nous définit. Et donc c'est ça qui fait que les mouvements militants vont bien au-delà de la manière dont les Belges, les Européens, les Blancs ont pensé l'antiracisme. On ne peut pas l'enfermer simplement dans les politiques d'égalité des chances ou dans le socioculturel, par exemple, de l'éducation permanente. Les mouvements militants sont dans les musées, sont dans les centres culturels, sont dans l'espace public, sont dans les universités. Donc, à peu près tous les secteurs sont dans le politique, la politique étrangère, évidemment. Tous les secteurs qui font la société sont des lieux d'investissement l'antiracisme. Et donc, là aussi, on voit bien qu'on a un décalage épistémique, épistémologique et politique qui est dans la manière même de définir ce que peut être l'antiracisme. Et donc forcément, négocier sa place dans l'antiracisme mainstream et d'État, ça commence par questionner les frontières, à part de questionner tout ce qui fait que, d'un point de vue institutionnel, ça c'est du racisme, ça ne l'est pas.
C'est ça, avec une logique de terrain, de militance, que vous avez beaucoup côtoyée, et puis toujours en arrière-fond, évidemment, Sarah Demar, cette question du financement des organismes qui veulent évidemment trouver leur place au soleil, si je puis m'exprimer ainsi. Vous dites, parce que vous êtes docteur en sociologie, Sarah Demar, vous êtes chercheuse au sein de l'université, pour plusieurs centres, entre autres le STRIJ. Et vous remettez, ceci dit, en cause l'université dans votre ouvrage, vous qui en faites partie, en disant qu'elle a historiquement participé à conceptualiser de manière pseudo-scientifique la race, c'est-à-dire.
Absolument, je ne suis pas la seule à le dire, mais historiquement, les scientifiques ont participé, donc plusieurs disciplines, hein, de manière différente, on pourrait s'arrêter sur chacune des disciplines, mais à construire des théories fumeuses autour de l'existence des races. Et du coup, ça me permet aussi de faire un petit aparté par rapport aux personnes qui sont allergiques aux mots race. Quand on parle de la race comme une construction sociale et historique, on parle bien au singulier, donc c'est-à-dire de cette manière d'organiser le monde, qui est très différente de la manière dont les scientifiques et les administrateurs, etc., coloniaux, ont pensé l'existence de plusieurs races humaines. Donc ce sont deux choses tout à fait différentes. Et donc là, effectivement, les universités ont joué un rôle dont on a encore des traces aujourd'hui. L'ULB, on sait qu'en anthropologie physique, si je ne me trompe pas, il y a encore, la question de la restitution se pose, des crânes humains. On a des traces, des restes qui sont tangibles, qui sont matériels, et on a aussi, et alors là c'est beaucoup plus massif, un héritage qui est plus épistémique autour de cette idée qu'il y aurait différentes formes d'humanité. Et puis après, ça s'est reconfiguré aussi autour de la question des cultures, autour de la question de, donc à la fois dans la manière de voir les autres, entre guillemets, mais aussi de définir les objectifs des disciplines. Donc là, il y a une vraie discussion à avoir et qui est difficile à avoir, même s'il y a un corpus de recherche qui se développe et qui est significatif, mais il faut quand même le préciser, qui se développe à la marge de l'espace institutionnel universitaire. Donc quand on parle de la décolonisation de l'université, parce que ça aussi, ça a été un terme un peu à la mode, c'est un chantier de vraiment aller chercher dans chaque discipline la manière dont la sociologie, l'anthropologie, la géographie, l'histoire ont participé au projet colonial. Qu'est-ce qui a permis de produire et de participer à produire ces théories fallacieuses, et qu'est-ce qu'il en reste? Donc c'est vraiment ces opérations analytiques qui ont permis, il ne suffit pas de dire la race n'existe plus, qu'est-ce qui a permis de produire la race? Comment est-ce qu'on en hérite jusqu'à aujourd'hui au regard des théories fondatrices et pas que des théories fondatrices?
Voilà, le rôle des universités dans la production des pensées antiracistes dominantes n'est pas négligé. Vous l'étudiez aussi dans votre ouvrage « La fiction post-raciale belge » publié aux éditions de l'Université. Ok, les universités ont bien sûr à faire leur mea culpa sur le temps long de l'histoire. Et encore aujourd'hui, vous dites qu'il en reste des traces. Bien sûr, c'est bien ça toute la question. La Belgique, comme État aussi, n'est pas à la hauteur de la tâche. Il y avait une décennie des personnes d'ascendance africaine qui avaient été décrétées par les Nations Unies avec toutes sortes d'objectifs à atteindre. La Belgique n'a pas été au rendez-vous.
Non, la Belgique n'a pas été au rendez-vous. Elle n'est pas le seul pays européen à ne pas avoir été au rendez-vous. Mais elle est arrivée quand même particulièrement en retard, y compris après des rappels internationaux nombreux. Puisqu'il y avait la décennie des personnes d'ascendance africaine, il y avait aussi le plan national contre le racisme. Donc, tout ça, ce sont des instruments onusiens, donc qui ont leurs limites, mais qui sont quand même des prescriptions pour des pays qui se veulent antiracistes. Donc être antiraciste, c'est pas juste dire la race n'existe pas, c'est reconnaître qu'on est dans une société raciste et mettre en œuvre des politiques pour défaire le racisme. Et là, on est vraiment très très loin. Et la décennie des personnes d'ascendance africaine était importante parce qu'elle permettait de reconnaître la spécificité du racisme anti-noir. Elle permettait aussi à la fois donc de lutter contre les injustices sociales et les inégalités sociales sur base raciale, qui sont nombreuses en Belgique. Elles sont quand même de plus en plus documentées. Et aussi de relier ça à l'histoire coloniale. Mais effectivement, il y a eu un semblant de lancement qui a été fort critiqué par les diasporas et qui n'a débouché sur rien.
Comme s'il y avait une incompréhension du pouvoir en place de prendre ces questions à bras-le-corps.
Alors moi, je parlerais plutôt de négligence. Je pense qu'on est vraiment dans une politique de négligence plus ou moins avouée, plus ou moins institutionnelle, puisque quand on parle de l'État, on parle d'un échiquier politique avec ses tensions, avec son pluralisme idéologique et avec des idéologies politiques plus ou moins en faveur, plus ou moins en défaveur d'une politique antiraciste, selon certains se pensent plutôt comme alliés et d'autres, ou en tout cas considèrent que le racisme c'est quand même un problème et que d'autres considèrent que le racisme n'est pas un problème, voire est une bonne chose. Donc on est quand même dans ce contexte-là. Mais si on regarde de manière plus méta, en fait, plus macro-sociale, on dit, bon tiens, voilà, qu'est-ce qui a été fait concrètement durant toute la décennie 2010 ? Le fait est que pas grand-chose n'a été fait en termes de politique ayant des effets structurels. Et donc, effectivement, en ce qui concerne les populations afrodescendantes, les populations noires en Belgique, je pense qu'on doit parler de politique de négligence.
Une question encore par rapport à l'université, Sarah Demar. Où en sont les études sur les Black Studies aujourd'hui à l'université ? Je dis ça aussi parce qu'il y a aussi votre positionnement, vous parliez d'alliés, hein, les alliés, c'est un des chapitres qui se retrouve dans votre ouvrage, La fiction post-raciale belge. Qui sont ces alliés ? Est-ce que vous en êtes d'alliés par rapport à ce monde des afrodescendants, parce que voilà, vous n'êtes pas une personne racisée, vous avez été acceptée avec votre personnalité.
Alors, donc c'est deux questions différentes. Ouais. Sur la question des Black Studies, tout dépend comment est-ce qu'on pense, mais si on parle en termes de champ, on peut dire qu'on est un petit peu nulle part, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un département de Black Studies où il n'y a pas un chercheur nommé avec une chaire. Pour moi, sur la question des Black Studies en Belgique francophone et néerlandophone, on a des recherches qui se développent, je l'ai dit, à la marge, c'est-à-dire des chercheurs qui sont à temps partiel ou des chercheurs qui sont doctorants, post-doctorants. Donc, c'est toujours des positions un peu liminales qui sont pas vouées à s'ancrer dans la durée de l'espace universitaire belge.
Votre positionnement,
ça, c'est toujours... Et mon positionnement à moi, alors c'est vrai que j'ai beaucoup été, de par le fait que je suis une personne blanche dans les milieux militants, désignée comme alliée et mobilisée comme telle. Dans le livre, je mène toute une discussion sur la question du terme de l'allié. Alors, est-ce que moi, je m'identifie comme alliée ou pas? J'aime pas trop, moi, les catégories, d'une manière, les catégorisations, mais je peux me définir potentiellement, momentanément, comme alliée ou comme amie ou comme sœur, ou belle-sœur, selon les situations. Mais je pense que c'est un terme qui, à un niveau individuel, n'est pas très intéressant. C'est un terme qui doit exister d'un point de vue collectif et politique. Et pour le moment, j'ai pas l'impression que ce soit un terme qui est corps. D'un point de vue collectif institutionnel à l'université.
Vous êtes chercheuse, quoi qu'il en soit, à l'Université libre de Bruxelles. Vous publiez ce livre, La fiction post-raciale belge, aux éditions de l'Université. Une dernière question, Sarah Demar, qui peut paraître tout à fait anecdotique, mais je trouve qu'elle en dit long quand même. C'est la fameuse question des blackface lors des carnavals, comme celui par exemple du Casdat. Hein. Il y a beaucoup de résistance dans la population et dans certaines strates de la population à bannir ces stéréotypes du folklore. Un folklore qui, pour ce cas-là d'ailleurs, a perdu sa reconnaissance comme patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO, ce qui veut dire quand même qu'il y a ces problématiques. Qu'est-ce que ça veut dire de notre société encore, cette volonté de continuer à ne pas considérer ça comme un problème ?
Le blackface, c'est vraiment une des causes qui a été portée par les milieux militants durant la deuxième moitié, grosso modo, de la décennie 2010, et qui est vraiment important et intéressant, parce qu'il montre bien à quel point la question de une manière d'être au monde raciste, c'est-à-dire suprémaciste blanche, est, dans certains cas, absolument indissociable de ce qui définit une identité collective, individuelle, régionale et culturelle. C'est-à-dire qu'il y a une opération, quelque chose qui se passe, qui à la fois amène des groupes, en fait, hein, des groupes et des individus à s'approprier et à performer une représentation offensante de la blackness, donc du fait d'être noir, et à ne pas parvenir à la rattacher à l'histoire coloniale qui a conduit à avoir besoin de créer cette entité-là, de créer le noir de manière comme un être un peu animalisé, méchant, bête, drôle, inférieur, pour pouvoir se sentir exister en tant que personne blanche. Et, donc ça c'est un premier point, mais l'autre point pour lequel c'est une cause militante majeure, c'est ne parvient pas non plus à faire le lien, et là c'est peut-être plus justement du côté d'un antiracisme d'État, à faire le lien entre ce folklore-là et l'existence du racisme anti-noir et l'existence d'une stratification raciale en Belgique. Donc voilà, ce lien-là ne se fait pas au niveau d'une politique d'État qui se voudrait démocratique et juste sur le plan social et politique.
La fiction post-raciale belge, antiracisme afrodescendant, féminisme et aspiration décoloniale. Le titre de l'ouvrage dont on a parlé aujourd'hui, que l'on doit à la plume de Sarah Demar et qui est publié aux éditions de l'Université de Bruxelles dans la collection Sociologie-Anthropologie. Je vous rappelle que Sarah Demar est sociologue, elle est membre de STRIGE, un groupe de recherche dont l'acronyme signifie Structure de recherche interdisciplinaire sur le genre, l'égalité et la sexualité, et qui dépend de l'Université libre de Bruxelles. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. Au revoir.